Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Et c'est beau ça, quand un cheval s'appelle Alinéa, pour faire le rapprochement avec l'émission maison et meubles, etc. Ça j'aime bien, oui, quand les transitions sont comme ça, c'est beau. Bonjour c'est Christian Pessé.
Eh bien bonjour François.
Christian Pessé, oui. Notre expert maison, bricolage, qui est là chaque samedi, 7h-8h sur RMC, pour répondre à toutes vos questions. Profitez-en, nous sommes en direct.
C'est le moment.
Allez-y, je vous en prie, chers amis. 3216 ou bien l'appli RMC Direct Studio, via votre smartphone, vous pouvez à tout moment joindre Christian. Avec au menu, mon cher Christian PC, tout à l'heure, nous allons faire la fête et faire péter les feux d'artifice.
Et oui, beaucoup de communes ont annulé leurs feux d'artifice. Eh bien, je me suis dit, pourquoi on ne le ferait pas soi-même dans son jardin? Est-ce que c'est possible? Et nous allons avoir un spécialiste, Gilles Kaiser, de chez Hardy, qui est spécialisé justement dans les feux d'artifice privés.
Eh bien voilà. À quel moment, voilà, est-ce qu'on peut faire un feu d'artifice à la maison?
D'autorisation, quelles sont les précautions, les sélections aussi de produits, combien ça coûte?
Est-ce qu'on peut se faire un feu d'artifice équivalent à celui du 14 juillet à Paris, par exemple?
Oui, depuis la Tour Eiffel, quoi. Est-ce qu'on a le droit de monter sur la Tour Eiffel?
Est-ce qu'on a
pour
le droit
faire un feu?
Exactement.
Ça, c'est une bonne question.
Ou est-ce que, par exemple, j'ai le droit de monter sur vos épaules pour faire un feu d'artifice?
Oui, ça risquerait de vous arriver. Vous partiriez comme une fusée.
Bon, enfin bref, on plaisante, mais si vous avez des questions justement sur les feux d'artifice, c'est le moment ou jamais. C'est la première fois, c'est inédit ce sujet.
C'est inédit, on n'a jamais traité ce sujet.
Parfait. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, vous allez nous parler de ces cuves qui nous permettent de stocker du fioul. Pour certains d'entre nous, ces cuves aujourd'hui ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la réglementation? Et techniquement, comment traiter ces cuves dont on n'a plus besoin?
Parfait. Et puis, vous le savez, tout au long de cette heure, vos questions, bricolage, maison, 3216, l'appli RMC Direct Studio, on est parti. Et on attaque avec Brigitte. Brigitte est en Corrèze, mesdames, messieurs. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, bien, très bien, ça va, et vous-même?
Mais très très bien.
Bon, vous avez
l'air... Alors, au lieu de parler de feu d'artifice, moi c'est plutôt dans la cave que ça se passe, c'est dans l'air.
Ne tirez pas un feu d'artifice dans la cave, Brigitte.
Non, c'était pas tout à fait mon intention.
Ou alors, à ce moment-là, vous mettez tous vos ennemis et vous fermez la porte.
Ouais. Voilà, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal non plus.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, ce qu'il m'arrive, c'est que depuis environ 6 ans, on a refait une route, on a goudronné une route. Malheureusement, je trouve une jolie maison qui est... Oui. Qui doit dater de 1860 à peu près, mais qui a été restaurée, arrangée, etc. Bref, revenons à mon problème.
Oui.
C'est que lorsqu'ils ont regoudronné cette route, le petit village où est cette maison, il y avait le long de cette maison. C'est-à-dire que cette maison avait 3000 mètres carrés de jardin d'un côté, mais de l'autre, elle est en bord de route. Et comme ça se faisait dans le temps, bien sûr, les gens aimaient habiter sur le long des routes. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'ils ont goudronné il y a 6 ans, le village, lorsqu'ils ont goudronné cette route, ils sont venus contre la maison, tout contre la maison. Mais avant qu'ils ne goudronnent, il y avait un caniveau avec des pierres un peu comme des galets arrondis qui faisait une petite cuvette d'environ 30 cm de large et qui allait cracher dans un égout beaucoup plus loin, en déclinivité, c'était parfait. Alors, lorsque j'allais dans cette maison en vacances, je prenais soin de nettoyer, de poncer pour que ce caniveau reste tel qu'il était dans le temps, qu'il soit bon. Un jour, j'arrive, c'est goudronné, très bien. Je me dis, c'est encore mieux, peut-être que ça va être encore beaucoup mieux qu'avant, mais pas du tout. Et c'est ça qui est assez incompréhensible pour moi, c'est que et actuellement, j'ai pas pu vous envoyer de photos, mais il y a une espèce de, je vais dire, du salpêtre noir. C'est pas du salpêtre, puisque le salpêtre est blanc. Non. Mais c'est une espèce de hauteur d'environ 10 à 11 cm qui est noire.
Mais où
marron,
ça? Où ça?
À la base de la maison, enfin, contre le goudron et la maison. Hein? Et l'eau pénètre entre, si vous voulez, maintenant, lorsqu'il y a de la pluie, au lieu que précisément l'eau puisse échapper par le caniveau qui allait.
Oui.
Se jeter dans les goûts. Maintenant, alors que c'est assez incompréhensible, le goudron arrive juste jusqu'à la maison, enfin jusqu'au bord de la maison.
Et
l'eau rentre, pénètre dans la cave. Alors,
d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça.
Et je ne comprends pas. Bah, je ne comprends pas comment.
Bah, vous avez tout compris. C'est-à-dire que vous me posez une question et vous avez apporté, si je peux me permettre, la réponse.
Oui.
C'est-à-dire que. Mais alors, l'eau, elle arrive par où? Elle passe par un soupirail? Elle passe par où?
Non, pas du tout. Elle, lorsque c'est très fort, l'eau de pluie, qui tape, si vous voulez, sur la maison, qui descend le long de la maison et rentre, non pas par capillarité, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'eau, rentre dans la cave.
Et quelle est votre question?
Et ma question, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aller voir la mairie et les obliger à vous refaire un caniveau?
Ah, mais je peux pas faire. Je pense que là, ils vont rire, quoi. Je veux dire,
ils vont pas rire.
Vous, ça vous fait pas rire.
Vous allez faire un constat d'huissier quand il pleut et qu'il y a de l'eau qui rentre dans votre cave. Vous allez faire un constat comme quoi le pied du mur maintenant est humidifié. Avec donc de la moisissure, parce que c'est ça, votre race noire, c'est délicat, c'est tout ce qu'on veut.
Bon,
eh bien, vous allez voir le service de l'urbanisme et puis vous allez voir le maire. C'est bête, vous auriez dû aller le voir il y a un petit mois ou il y a deux mois,
juste avant
une élection, en lui disant que maintenant, c'est la conséquence des travaux qui ont été faits, c'est que vous avez de l'eau chez vous. Donc, il n'y a pas d'autre solution parce que, ou alors vous allez faire un cuvelage, des choses comme ça qui sont des gros travaux.
Mais ça va me coûter une fortune.
Ça va vous coûter. Ou alors vous allez lui dire, écoutez, je vais faire un cuvelage, mais comme c'est de votre faute, vous allez le payer. Donc, ça me paraît être la seule solution, c'est d'aller justement. Et de toute façon, vous ne devez pas être la seule à avoir ce problème.
Non, vous avez
certainement des voisins. Allez voir collectivement les édiles de la commune pour leur demander de faire quelque chose. Et puis voilà. Je pense que il n'y a pas d'autre solution. C'est vers eux qu'il faut que vous vous tourniez, quitte à faire une expertise que vous paierez en commun avec vos voisins pour démontrer que les nuisances, c'est parce que une fois de plus, on a fait n'importe quoi, on a retiré les trottoirs, la France entière vit de cela. Maintenant, on amène les chaussées pile au ras des maisons, on fait des rues piétonnes complètement minéralisées avec un petit chemin d'eau au milieu, c'est-à-dire on retourne au Moyen-Âge, quoi, en fin de compte. Et on supprime les trottoirs qui avaient pourtant été inventés par les Romains il y a quelques
siècles. Oui, et puis un trottoir, c'est pas là que pour faire beau, ça sert à quelque chose.
Bien sûr, un trottoir, un caniveau, un regard de récupération des eaux, vous l'avez bien décrit, c'est ce qui permet effectivement d'évacuer l'eau.
Bon, voilà, Brigitte, donc c'est pas de votre faute, c'est la faute de la municipalité.
Voilà.
7h15, Christian Pessé, on y va pour notre conseil.
On y va pour notre conseil.
C'est le conseil béton.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Et le conseil de l'expert de ce samedi matin, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette cuve qui nous servait à stocker notre fioul? Le seul truc, c'est que maintenant, on s'en sert plus.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, c'est en novembre 2018, vous savez, le Premier ministre de l'époque qui vient de nous quitter, enfin, au niveau du pouvoir seulement.
Oui, bien sûr, parce qu'il est toujours là.
Il est toujours là. Il a annoncé la fin du chauffage fioul dans les 10 ans. Alors, le nombre de foyers, c'est le cas de le dire, qui ont abandonné le fioul finalement depuis n'est pas quand même phénoménal, même s'il y a une tendance à aller vers la pompe à chaleur, vers le bois. Mais c'est vrai que, notamment, la baisse du prix du fioul, considérable, près de 30%, n'est pas vraiment de nature à inciter à abandonner le fioul, mais ça va venir. On va être obligé progressivement de l'abandonner.
Ça pollue.
C'est une énergie non renouvelable,
Énergie
fossile. Donc de toute façon, on va y aller. Alors, qu'allez-vous faire de cette cuve qu'on dit désaffectée? Peut-être que vous disiez tout simplement rien, je garde ma cuve à fioul comme ça, eh bien non, parce que elle va vide, elle va risquer de s'oxyder, elle va peut-être fuir, parce qu'il y a peut-être encore du fioul dedans, en tout cas il y a des gaz de fioul dedans, il y a les risques de fuite donc d'hydrocarbures, il y a des risques risques d'incendie. Il y a des risques aussi, même, on peut aller jusqu'à des risques d'explosion. Et puis, elle va se fragiliser, cette cuve. Et à terme de dizaines d'années, eh bien, il y a un jour, vous allez pouvoir avoir un effondrement de terrain. C'est-à-dire, tomber dans la cuve, si j'ose dire. Ce qui peut être quand même assez désagréable. Surtout qu'on a souvent cela dans une cour avec des voitures qui peuvent rouler sur le terre-plein. Et donc, des risques, effectivement, d'effondrement. Alors, depuis 2004, il y a une réglementation, il y a un arrêté du 1er juillet, article 28, alors je cite, qui impose la vidange, le dégazage, le nettoyage, le comblement du réservoir ou le retrait de celui-ci. Alors, vous avez donc deux solutions après la vidange et le dégazage, c'est-à-dire l'élimination des vapeurs de fuel et le nettoyage.
Comment on fait ça, tiens, d'ailleurs? Il y a une entreprise spécialisée qui vient.
Bien sûr, ce sont des entreprises agréées, en plus, c'est pas...
Qui injecte un produit dans la cuve, c'est ça?
Qui pompe, qui aspire les gaz. Enfin, c'est très technique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire après? Eh bien, vous pouvez le retirer, c'est-à-dire le retrait de la cuve, ou le comblement de la cuve. Il y a donc deux solutions. Alors, on imagine que l'extraction de la cuve, l'enlèvement, souvent la découpe sur place et le transport de la cuve, c'est pas tout à fait simple. Il faut faire passer des engins de chantier. Évidemment. C'est parfois impossible parce que l'environnement a évolué. Il y a souvent 30 ans, 40 ans que vous avez une cuve. Il y a eu des arbres qui ont poussé à côté. Il y a peut-être eu même des maisons ou une extension de votre propre habitation. Donc, c'est vraiment pas simple. On imagine un peu le terrassement, le rebouchage du trou. Sauf si elle est hors sol, puisqu'il y a des cuves fuel hors sol. Hein. Bon, là, on se contente de la découper, mais sinon évidemment il va falloir traiter autrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va combler la cuve. C'est la méthode la plus simple. On parle de neutralisation du réservoir. Alors comment on fait? Eh bien, on remplit tout simplement la cuve d'un élément dit solide et inerte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du sable, c'est de la terre, c'est du béton liquide. Donc à ce moment-là, on va combler complètement la cuve.
Donc on va rentrer un liquide qui après va se solidifier en quelque sorte, c'est ça? Ou alors du sable?
Du béton liquide ou du sable ou même de la terre. D'accord. Tout simplement. C'est possible. Là encore, c'est une affaire quand même de pro. De toute façon, le dégazage, on a vu ça, c'est une affaire de pro, et le nettoyage aussi. Alors il faut un professionnel agréé qui fera le travail et qui vous remettra une attestation en bonne et due forme. Ça coûte quand même, c'est pas complètement innocent, hein. C'est entre 500 et 1000 euros pour le dégazage et le nettoyage. Oui. C'est entre 500 et 1000 euros aussi pour le démontage ou pour le comblement. Alors, il y a une prime, il y a une aide de 50% à peu près dans le cadre de MaPrimeRénov', vous savez, dont je parle souvent. Je reviendrai d'ailleurs dessus avant l'été.
Et la prime est valable pour les deux actions?
Oui, oui, bien sûr. C'est l'ensemble.
Voilà, donc, si ça me coûte 2000 euros, on a 1000 euros de prime.
Voilà,
quoi.
Mais c'est assujetti comme MaPrimeRénov' à un niveau de revenu. Donc, on n'a pas forcément la garantie. Alors, il y a une autre solution, c'est de convertir... c'est dommage, Miu est parti, mais on peut convertir la Q-Fuel en réserve d'eau, notamment pour arroser son jardin, si vous pouvez récupérer l'eau en toiture. Alors, les étapes et le coût de la vidange, du dégazage et du nettoyage sont les mêmes, ça ne change pas. Il faut aussi inspecter l'état de la cuve, lui appliquer une peinture spéciale intérieure ou la chemiser intérieurement avec une enveloppe souple. Je reviendrai sur le sujet, je pense que c'est intéressant d'expliquer dans quelles conditions il est intéressant d'utiliser une cuve. Si vous avez par exemple une cuve de 1000 litres, moi je considère que c'est pas vraiment intéressant. Si vous en avez une de 5000, ça commence, ou de 3000, ça commence à devenir intéressant. On verra comment on peut utiliser cette eau, certes pour l'arrosage du jardin, mais aussi dans la maison pour un certain nombre de besoins.
Elle sera jamais potable, bien évidemment.
Non, bien sûr, ça sera jamais potable. L'eau de pluie, de toute façon, n'est jamais potable.
Mais bien sûr. Hein,
même si la cuve était sanitaire, on va dire, d'une qualité sanitaire, mais on ne boit jamais l'eau de pluie.
C'est pas mal, ça. Enfin, le fait de récupérer cette cuve pour d'autres usages.
Oui. On verra sur le plan économique, la rentabilité est très moyenne, mais il faut aller vers ça, il faut faire des économies d'eau.
Parfait. Christian, on va revenir dans un instant sur RMC. Et attention, on va tout faire péter, si je puis me permettre. Non.
Pas tout, quand même.
Sûrement pas. Quand je dis ça, c'est... Moi, quand j'étais petit, j'avais une fascination, mais je pense comme tous les enfants, pour les feux d'artifice.
Pour les grands, vous n'avez pas encore...
Oui, bien sûr, mais mes petits, moi, je trouvais ça totalement magique. Et c'est vrai que le rêve... c'est d'organiser son propre feu d'artifice.
Voilà, tirer son propre feu.
Alors, il faut être quand même un peu privilégié. Hein. Il faut avoir une surface, peut-être être à la campagne, enfin, etc. Ou au bord de mer, je ne sais pas trop. Mais justement, on va poser toutes ces questions à notre invité qui va tout nous expliquer. Il s'agit de Gilles Kayser, qui est responsable de la société Hardy, qui fabrique des feux d'artifice, en tout cas qui les commercialise. 7h22, vous avez des questions, tiens, sur les feux d'artifice. N'hésitez pas.
C'est le moment.
32 16, le standard RMC, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Comme ça, on vous rappelle. Et on revient dans un instant après la météo que voici.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
Jusqu'à 8h.
J'ai entendu des pétards, je suis monté pour me joindre. Et peut-être je dérange s'il y a distribution de cadeaux.
Votre maison.
Allô, les explosifs !
C'est le temps pour les artilleurs !
Immeuble mardi soir, passez-moi les pétards.
François Sorel.
Christian Pessé.
Et le 14 juillet, Christian, vous serez à Caen,
oui.
Dans votre magnifique propriété, sur votre rooftop, en train d'apprécier le feu d'artifice de Caen.
Bah, s'il a lieu, je ne sais même pas.
Avec un long drink.
Il va falloir vérifier ça. En tout cas, dans beaucoup d'endroits, il y en aura pas de feu d'artifice.
Ouais, ouais. Après, il y a le cas parisien, hein, c'est étonnant. Oui. Le feu d'artifice va être tiré, mais il n'y aura pas. Enfin, on n'autorisera pas les rassemblements.
Oui, ça va être un peu étonnant. Comment on va faire, parce que ça va être assez.
Surtout à Paris, hein, où il y a des millions de gens, ça va être difficile. Non, mais ne vous mettez pas à côté, alors que le feu d'artifice est tiré sur la Tour Eiffel.
Quand je suis à Paris, j'habite en bord de Seine, avec un grand pont pas très loin de chez moi. À chaque 14 juillet, quand je suis sur Paris, je vois le pont qui est noir de monde, de bagnoles, surtout de voitures, parce que les gens viennent faire et ils restent dans leur voiture.
Je ne vois pas très bien comment
on va pouvoir faire cette année pour empêcher cela. Enfin donc, en tout cas, on voit aussi régulièrement des petits feux d'artifice. On voit quelques fusées qui sont tirées timidement. Et je me suis demandé, est-ce que tout ça, finalement, est presque clandestin, ou est-ce qu'il y a la possibilité, véritablement, de tirer soi-même un feu d'artifice?
Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut faire.
J'ai invité aujourd'hui Gilles Kayser. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez Hardy, c'est artifice de divertissement.
Tout à fait.
Vous êtes donc responsable du développement de cette entreprise au niveau commercial.
Et vous êtes vous-même artificier.
Et vous êtes vous-même artificier. Tout à fait.
Donc vous organisez des feux d'artifice pour des municipalités,
tout
etc.
À fait.
J'imagine que là, comment vivez-vous cette situation un peu particulière? Vous avez beaucoup de désistements de municipalités qui annulent leur feu d'artifice.
Au jour d'aujourd'hui, c'est 90% d'annulation de nos commandes professionnelles. Oui, tout à fait.
Ah oui, c'est un problème.
90%.
Oui.
D'autant que vous, votre métier est très saisonnier. 14 juillet, 15 août. Certaines fêtes nationales, en tout cas de locales, de villages ou de villes, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Après, vous avez aussi d'autres petites manifestations. Or, 13-14 juillet, ou qui sont vraiment aussi annulés aussi. Quoi.
Alors, vous faites aussi donc des feux privés, on va dire. Vous nous avez amené d'ailleurs une mallette là, qui est, pour nous montrer comment ça se présente.
Alors, je tiens quand même à m'adresser à la direction. Nous n'allons pas allumer la mallette dans le studio. Ne vous inquiétez pas.
Ma première question, elle est toute bête, c'est est-ce qu'on est autorisé à faire un feu d'artifice soi-même? Est-ce qu'il faut faire une déclaration, avoir l'autorisation de ses voisins? Est-ce que dans mon jardin, là, je peux organiser un feu sans prévenir personne?
Alors, tout à fait, tout à fait.
Ah oui.
Donc, oui, le principe des feux portables que nous avons créés, c'est un produit où n'importe qui, du moment qu'il est majeur, bien sûr, je précise bien, peut le tirer dans son jardin sans autorisation.
Ah bon?
Voilà.
Il faut peut-être mieux quand même prévenir.
Même un jardin, si j'ai
500 mètres carrés.
Ou même si j'ai 20 mètres carrés de jardin,
Non. Il y a sur chaque produit, vous avez une distance de sécurité qu'il faut respecter.
Oui.
Donc si elle n'est pas respectée, vous ne pouvez pas tirer votre produit.
D'accord.
Donc, ça, c'est la première chose.
Et c'est quoi, deux secondes, c'est quoi le minimum de distance de sécurité?
Le minimum sur nos produits, c'est 8 mètres.
Mais on peut. Ah oui.
Alors, 8 mètres sur des produits de proximité où là il n'y a vraiment pas de danger, et ensuite nous avons donc les produits comme la mallette qui est derrière, où c'est 8 mètres, mais on préconise 15 mètres. Et après, vous avez donc 8 mètres, mais on préconise 15 mètres, et aussi le maximum 25 mètres.
Alors attendez, quand vous dites 25 mètres, c'est je suis à 25 mètres du lieu de tir du feu d'artifice.
Tout à fait.
Mais par rapport à la limite autre de propriété, est-ce que ça veut dire que c'est 50 mètres?
Non, oui. C'est 25 mètres.
C'est 25 mètres, mais 25 mètres d'un côté, 25 mètres de l'autre.
Voilà, 25 mètres, donc 50.
Donc 50. 50. Donc ça, c'est... Mais... Et donc on peut commencer à 8 mètres, vous dites. Donc ça veut dire à une vingtaine de mètres de circonférence du lieu, on peut tirer un feu.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Dans toutes les sécurités, du moment qu'on lit bien la notice... qui est bien inscrite sur le produit.
Alors, j'imagine qu'il y a évidemment des contraintes au sol, mais aussi dans les airs, non ? Je peux pas tirer un feu d'artifice, il y a un arbre à proximité.
Alors, tout à fait, j'allais en venir. Donc, quand on dit respecter la sécurité, donc c'est un, donc la distance, et de deux, ne pas poser la valise en dessous d'un arbre.
Oui, ça paraît logique.
Voilà, ensuite bien la caler, et non pas aussi qu'il y a 5-6 mètres à côté, des feuilles mortes sèches, des produits inflammables à côté. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun produit inflammable à côté quand même.
Est-ce que ça peut provoquer des incendies, un feu d'artifice ? Je suis dans une, je sais pas moi, dans une zone, dans, je sais pas, dans, à la campagne par exemple.
Il y a un chamblé autour,
c'est bien sec, c'est le mois d'août, est-ce que je peux tirer un feu d'artifice ?
Alors, oui, les feux d'artifice peuvent provoquer des incendies. Si les mesures de sécurité ne sont pas appliquées. Et de deux, bien se renseigner à la mairie ou à la préfecture s'il n'y a pas un arrêté de sécheresse.
Ah, c'est l'arrêté de sécheresse
qui peut interdire le tir du feu.
Mais s'il n'y a pas d'arrêté de sécheresse, le bon sens veut que si on est dans une zone au milieu des pins, dans le midi de la France, on va évidemment s'abstenir.
Ou dans le maquis corse, par exemple.
Voilà, ou dans le maquis corse, oui.
Vaut mieux pas. Enfin, des fois, ça explose là-bas, mais c'est pas forcément un feu d'artifice, d'ailleurs.
C'est aussi le bon sens, quoi.
Et il n'est pas de bon ton aussi, quand même, de prévenir la mairie, non? Non, parce qu'elle va risquer de vous dire qu'elle veut pas, justement.
C'est
ouvrir la boîte de Pandore.
C'est le cas de le dire pour la police.
Alors c'est rigolo parce que vous parlez de valise et c'est vrai, vous êtes venu avec une espèce de pas une valise mais
une boîte valise quoi.
Et donc alors attendez, on achète votre truc, on est dans une zone qui est sécurisée, j'ai bien mes 25 mètres, patati patata. Christian PC est en train de faire le barbecue, il s'en occupe, etc. Et c'est moi qui dois mettre en route la valise.
Alors
donc déjà bon courage. C'est compliqué ou pas?
C'est très 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 simple. Donc c'est une valise, donc vous la posez au sol, à l'endroit où vous avez défini.
Oui.
Vous la calez, pour qu'elle soit calée si le sol n'est pas stable. Mm-hmm. Donc ensuite vous ouvrez le couvercle.
D'accord.
Vous arrachez juste le couvercle, vous avez une mèche d'allumage, bien prendre en compte qu'il y a une flèche de sens du public, parce qu'il y a des produits qui sont éventaillés. Donc il faut bien qu'il soit face au public. Donc vous respectez bien cette flèche, vous allumez la mèche, et c'est tout.
Et vous reculez quand même.
Oui, oui, vous reculez, bien sûr.
Vous regardez au-dessus.
Non, surtout pas. Donc pour la sécurité du tireur, de la personne qui va allumer cette mèche, donc déjà c'est de ne pas se mettre au-dessus, allumer bras tendus, et après de...
On a combien de temps avant que ça explose quand on allume la mèche?
Entre 6 et 8 secondes.
Ah oui, c'est pas beaucoup, hein. Vous auriez pu en mettre un petit peu plus quand même.
C'est la réglementation.
C'est comme ça.
C'est la réglementation.
Alors, évidemment, attention aux enfants, attention aux animaux domestiques qui peuvent.
Toute personne bien à la distance de sécurité et là, il y aura aucun problème.
Mais alors, vous venez de dire, il y a des normes. Alors, c'est quoi les normes et comment on vérifie? Parce que j'imagine qu'il y a des produits qui sont plus ou moins sérieux. Donc, comment on vérifie que c'est bien conforme à la réglementation?
Tous nos produits sont homologués avec les normes CE, donc qui vont du classement F2, F3, F4.
C'est quoi F1, F2?
Alors, F1, c'est pour les produits pour des mineurs, F2 pour les F1 pour les enfants à partir de 12 ans, de 12 ans, je précise bien, F2 F3 à partir de 18 ans, après F4 c'est produits professionnels, donc
c'est une question d'âge
tout à fait. Et après donc nos produits sont aux normes européennes. Vous avez un numéro d'homologation qui est inscrit sur la boîte.
D'accord. Faut faire attention à ça parce que
faut faire attention
à ça. C'est quand même du sérieux. Alors au-delà de ça, bon, sinon on a pris toutes les précautions. Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir un tuyau d'arrosage à proximité, un extincteur, je sais pas.
Appeler les pompiers juste avant le tirage. Voilà.
Non, les pompiers non, mais oui, il faut, à la limite, oui, même un seau d'eau à côté, on ne sait jamais, une petite retombée à côté qui tombe par terre, il peut y avoir des petites flamèches, oui.
Bonne question. Alors, je ne sais pas si Gilles, qui produit cette émission, on va essayer d'appeler un auditeur qui a une bonne question. On va essayer de joindre, avant que je vous pose la question qui est écrite, on va essayer de l'avoir au téléphone parce que on parle des nuisances pour le voisinage. Et ça peut être assez intéressant. Mais moi, j'avais une question. Est-ce que, combien ça coûte un feu d'artifice? Tiens, votre valise qui est juste à côté de moi, je vois que le feu d'artifice dure une minute. C'est court, une minute, non?
C'est court et c'est long. Quand vous tirez vous-même votre feu d'artifice, quand vous l'allumez, une minute, vous verrez, c'est très long.
D'accord.
Hein, pour le particulier, c'est long.
Donc, ça suffit à faire son petit effet, on va dire.
Oui, tout à fait.
C'est quoi, c'est 5-6 fusées?
Ah non, là, vous avez plus de 200 projectiles quand même.
Hein. Ah oui. Une minute, 200.
Ah oui,
Non,
projectiles.
Non, mais là, c'est Versailles. Là.
Ah oui, non, mais c'est un feu de 5 minutes, dans nos valises 5 minutes, c'est plus de 500 projectiles.
Ouais. Ah oui, d'accord. Tout alors, un feu de 5 minutes, ça coûte combien, par exemple?
Alors, la fourchette, c'est, on va dire, c'est 100 euros la minute. Voilà.
Donc 100 euros la minute.
100 euros la minute. Donc voilà. C'est pas.
Bon, alors évidemment c'est de l'argent, mais on fait ça une fois.
Oui. Pour un anniversaire, un mariage. Voilà. Qu'est-ce que c'est 100 euros aujourd'hui, quoi.
Est-ce qu'il faut une assurance particulière ou est-ce qu'il vaut mieux prévenir son assurance, enfin s'assurer que.
Normalement, la responsabilité civile du particulier fonctionne.
D'accord.
Oui.
Est-ce qu'on a des scénarios qui sont générés, c'est-à-dire. On tire pas n'importe quoi, quoi. Il y a des types de fusées. C'est quoi le bouquet, par exemple?
Le principe du portable, c'est devenir son propre artificier. Donc, c'est-à-dire, le portable est conçu du début à la fin, donc d'une annonce, de tableaux qui vont crescendo et d'un bouquet.
D'accord.
Donc, ensuite, on a plusieurs valises d'une minute, plusieurs valises de deux minutes, où là, vous avez des effets différents. Donc,
Et alors, moi je trouve ça fascinant. Je pourrais vous poser des questions pendant des heures entières sur les feux d'artifice. Je trouve ça passionnant. Mais quand on voit par exemple des feux d'artifice qui sont tirés dans des villes, alors moi je sais que je suis à Ajaccio l'été et le 15 août, il y a un magnifique feu d'artifice qui dure, je sais pas combien, 20 minutes, un truc comme ça. Et en fait, c'est des valises, comme vous dites, qui sont posées sur l'eau. C'est autre chose, c'est un autre concept.
C'est un autre concept. En fait, avant la création des portables, le particulier achetait des petits produits, donc on appelle ça des compacts qui vont de 2-3 coups à une dizaine ou une vingtaine de coups et qui étaient obligés d'allumer un par un.
Alors que là, on
allume une fois et le principe du portable, c'est tout est relié à l'intérieur et tout se fait crescendo. Mais le feu d'une commune, c'est une journée de travail, de montage, voire une journée, c'est vraiment sur un beau feu.
Et pour une municipalité, ça coûte combien un feu d'artifice comme ça d'un 15 août
Il y a tous les prix. D'une université, ça va de 1000 euros. Après, il n'y a plus de limite.
Mais c'est vrai que c'est un investissement important pour les municipalités, j'imagine. Bon, pas tant que ça,
pas
finalement.
Ça.
Oui, a priori, ils négocient, visiblement. Ouais.
Non, c'est quoi? C'est une centaine de milliers d'euros, non?
Non. On va dire la moyenne sur toute la France, c'est 3-4 000 euros. J'enlève les grosses villes. Oui. En enlevant les grosses villes, les villes moyennes, c'est 3-4 000 euros.
On revient dans un instant, 7h41, nous aurons Paul qui a une question justement sur les nuisances sonores des feux d'artifice. Et puis bien sûr 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on revient dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Le retour de ce week-end des experts, et c'est la maison. Et on évoque pour la première fois depuis que cette émission existe, ça fait quelques années déjà, feu d'artifice à deux jours du 14 juillet. Ça nous semblait pertinent. Est-ce qu'on peut fabriquer soi-même, tirer soi-même son feu d'artifice? On en parle avec notre invité qui nous donne des conseils. Il s'agit de Gilles Kayser, qui est responsable commercial chez Hardy, qui est une société qui est spécialisée justement dans le divertissement et dans le feu d'artifice. Et nous avons Paul qui a une question justement. Bonjour Paul.
Oui, bonjour François.
Bonjour Paul.
Bienvenue, on vous écoute Paul.
Oui, en fait, j'écoutais votre émission et donc il semblerait qu'on peut faire des feux d'artifice dans son jardin, en ville, sans trop de problèmes. Et elle me disait, bon, un feu d'artifice, par définition, ça fait beaucoup de bruit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des règles de par rapport aux nuisances sonores qui concernent aussi les feux d'artifice, hein, des règles à respecter pour ne pas gêner les voisinages.
Gilles Kayser, quelle réponse apporter là ?
Alors, rebonjour Paul. Donc, les règles, la nuisance sonore, donc comme nos produits sont homologués, les produits sont homologués avec des normes de nuisance, donc avec des normes de décibels. Ah. Donc, tirer un feu d'artifice, vous ne serez pas embêté par le bruit. Ensuite, pour les voisins, le seul moyen, c'est déjà de les prévenir par courtoisie et pourquoi pas de les inviter, mais il n'y a aucun souci avec les nuisances sonores.
Il y a des feux silencieux ?
Et nous avons des feux silencieux, tout à fait des portables silencieux qui ne font pas de décharge d'éclatement.
D'accord.
Donc là, c'est...
Ah oui, d'accord.
Ma dernière question par rapport à la météo, parce que c'est important aussi, s'il pleut, s'il y a du vent.
Alors la météo, s'il y a du vent, il ne faut pas que ça excède 18 km/h. Donc ça, c'est aussi dans les normes, c'est à respecter. Et pour la pluie, dans tous nos portables, vous avez un sac, vous mettez le produit dedans et ça ne craint rien du tout. Donc la pluie ne...
On peut tirer sous la pluie.
On peut tirer sous la pluie. Bon, à part s'il y a un gros orage, vaut mieux pas, mais bon, une légère pluie, ça ne pose pas de problème.
Au pire, s'il y a des éclairs, ça fera des animations supplémentaires.
Voilà.
Bien sûr. Où trouve-t-on vos produits ?
Alors, nous trouvons tous nos produits dans toutes les boutiques spécialisées de fêtes, type foire fouille, métro, faites sensation, ou aussi sur certains clients artificiers professionnels qui commercialisent nos produits à cause de ce qui se passe en ce moment.
Et vous le disiez, c'est à peu près 100€ la minute, voilà, hein, si on veut se faire quelque chose de costaud, de sympathique, on va dire. Paul, ça vous va ?
Donc, très bien.
Merci en tout cas de nous avoir appelés. À très bientôt. Merci beaucoup Gilles Kayser. On enchaîne Christian avec un tout autre sujet maintenant, puisque ça suffit des pétards, hein, vous en avez assez parlé. Nous avons Vincent qui est là. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent.
Vincent n'est pas là, tiens.
Oui, bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous aviez mis le mute.
Oui. Eh ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, tiens Vincent, sans rentrer trop dans votre vie privée, mais vous faites quoi à 8 ans moins 10
Je m'occupe de mes enfants.
Eh ben voilà.
C'est une bonne profession.
C'est une bonne profession et une saine occupation. On vous écoute. Quelle est votre question ?
Alors, avec ma femme, on a fait l'achat d'une maison en construction via un CCMiste.
Oui.
Qui a été liquidé, en redressement judiciaire est liquidé avant la période Covid. Pas très chouette. Et du coup, on se demandait quelle serait en fait la possibilité des versements des pénalités durant la période de Covid, sachant qu'on a activé la garantie de livraison. On devait être livré normalement à la fin décembre. On a activé la garantie de livraison par courrier avec AR et l'identification a pris énormément de temps par le garant. Qui est un assureur en Angleterre, qui n'était pas confiné, lui.
Il vaut mieux avoir des garants, en France et des grandes structures. Ça, c'est un conseil. Vous savez, c'est comme pour les assurances dommages ouvrages, comme pour les décennales. On a vu des exotiques arriver parce que par l'Angleterre, ça peut venir de n'importe où. Hein. Tout le Commonwealth peut être concerné, donc ça veut dire que vous pouvez avoir effectivement un assureur à l'autre bout du monde. Bon, je souhaite pour vous que ça se passe bien avec donc ce garant. Alors, ceci étant, il est à peu près sûr qu'il y ait une clause de force majeure. Et évidemment, ça a déjà été statué. Il y a déjà eu des problèmes, des débuts de procès, en tout cas des conflits sur le sujet de la force majeure. Oui, c'est un cas de force majeure. Donc, à mon avis, la période Covid va être neutralisée et vous ne serez pas indemnisé pour celle-ci.
Oui. En fait, la question, c'était plutôt vu qu'on n'avait plus de repreneur, on n'avait pas de repreneur à ce moment-là, identifié. Et la société qui était en charge de notre construction initialement était déjà absente.
C'est le garant qui normalement doit désigner celui qui va poursuivre les travaux.
Ça intervient après.
Oui, donc il faut absolument que vous soyez très très attentif à la relation avec votre garant. Mais s'il est anglais, c'est peut-être pas aussi commode que ça. Donc regardez ça de très près. Et n'hésitez pas à prendre un avocat si c'est si ça sent mauvais, quoi.
Hein. Oui, c'est un peu ce qu'on disait.
Voilà. Bon, alors je crois que les caisses d'assurance françaises couvrent justement dans un certain nombre de cas les défaillances d'assureurs étrangers, mais moi je répète, hein, toujours des entreprises fiables, connues en termes d'assurance.
Mais bon, là, avec cette histoire de Covid, ça a mis à genoux aussi d'autres, enfin des sociétés.
Ça va pas mettre des assureurs à genoux.
Oui, oui, bien sûr.
Il y a des caisses de garantie.
Il y a 2 millions d'euros, je crois, de risque pour eux sur l'ensemble des chantiers qu'avait le constructeur.
Oui, oui, mais ça ne m'étonne pas. Alors bon, faut espérer effectivement que ça n'entraîne pas des faillites en cascade. Mais là, je peux évidemment rien vous dire. Hein, c'est sûr que la problématique, enfin, quand on est avec, je sais pas, avec AXA ou autre. Des grandes compagnies d'assurance. Et là, il y a les caisses de garantie automatiques. Voilà.
Mais je crois qu'ils n'avaient pas de statut non plus, parce que je crois que le constructeur avait 3 garants, dont 2 français, et en fait, les 2 français n'ont pas statué non plus sur la période Covid, sur ces pénalités, parce qu'en fait, on a un trou entre les deux, entre le moment où on a la défaillance du premier et l'identification des repreneurs.
Oui, mais ça, je pense malgré tout, n'ayez pas trop d'espoir sur le sujet.
Ouais. Et oui, voilà encore une conséquence méconnue, en fait, hein, de cette sacrée épidémie. Hein.
Oui.
Merci Vincent pour votre appel. 7h52, Christian, on termine avec votre coup de cœur.
Oui, bah mon coup de cœur, il est simple. Il est en faveur du vote de l'Assemblée, hein, qui a voté une rallonge budgétaire en faveur du dispositif MaPrimeRénov. J'en parlais tout à l'heure. Vous savez, c'est le système de prime directe qui se substitue progressivement au dispositif de crédit d'impôt, le fameux CITE. En 2020, c'est une période un peu intermédiaire, pour se généraliser en 2021. Alors, les députés ont ajouté 100 millions d'euros, c'est pas rien, au crédit déjà voté, ce qui porte à près d'un demi-milliard l'aide qui permet aux particuliers de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Vous avez été près de 50 000 à le faire depuis le 1er janvier dernier, c'est-à-dire en 6 mois. Vous avez été 50 000 à solliciter donc MaPrimeRénov pour rénover, notamment énergétiquement, votre logement. Alors, je reviendrai, je pense, peut-être la semaine prochaine, dans mon conseil de l'expert, sur ce qu'est MaPrimeRénov, parce qu'on en parle sans arrêt.
Mais bien sûr.
C'est pas forcément évident. Et comment en bénéficier? C'est simple, vous verrez. Après, on aura aussi les témoignages, je l'espère, d'un certain nombre d'auditeurs pour voir s'ils ont bien touché leur MaPrimeRénov.
Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler,
voilà,
hein, 3216.
Vous appeler pour vous inscrire.
Ou sur l'appli RMC, voilà. Direct Studio, avec votre numéro de téléphone pour que vous puissiez, pourquoi pas, témoigner la semaine prochaine. Christian PC, merci, à samedi.
À samedi.
Et dans un instant, après la maison, c'est la forme et la santé avec un Christian Ekia. Christian PC, regardez comme il est beau aujourd'hui. Oui. Il est fit.
Il est moyennement rasé quand même. Hein.
Ouais, non, mais ça lui va bien.
Je voudrais vous dire que.
On dirait un chanteur pour femmes.
Ce matin, j'ai beaucoup apprécié la minute et les 100 euros de le feu d'artifice.
Oui.
C'est top. Et comme d'habitude, les émissions de Christian PC, c'est très concret, très pratique. Donc, je suis un adepte du feu d'artifice à la minute. Je vais les utiliser.
C'est vrai? Vous allez tester ça?
Ah oui, je vais tester
dans
ça.
Dans votre salon?
Pour ma belle-maman. Oui, oui, pour ma belle-maman. Je vais lui offrir un feu d'artifice.